13h-14h, tout terrain.
Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
Ravi de vous accueillir dans Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Vous connaissez le principe, Tout Terrain, c'est l'actualité racontée par ceux qui l'ont couverte. Et l'actualité cette semaine, c'est bien sûr le périple d'Emmanuel Macron sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale, entre hommage aux poilus de ceux qui devaient être la der des ders, et dialogue avec les Français qui a viré souvent à l'interpellation sur le prix des carburants, comme nous le racontera Lionel Gougelot. Arthur Mbaché nous fera découvrir le formidable travail du docteur Frémaux. À Verdun, ce légiste redonne une identité aux soldats inconnus. Nous irons à Marseille où la colère mêlée à la psychose n'a cessé de monter après l'effondrement de deux immeubles en plein cœur de la ville. Une scène digne d'un tremblement de terre, nous dira Nathalie Chevance. Le harcèlement scolaire et Virginie Salmen nous fera découvrir une toute nouvelle méthode pour lutter contre ce fléau en faisant parler harcelés et harceleurs. Et puis nous irons en Guadeloupe rejoindre Corinne Boulot à quelques heures de l'arrivée de la route du Rhum. Voilà pour le programme. Tout terrain, c'est parti.
Europe 1, Tout terrain, Fabienne Lemoyle.
C'est donc hier soir qu'Emmanuel Macron est rentré à l'Élysée. Il aura passé la semaine hors de Paris, a sillonné deux régions, 11 départements, à faire étape dans 17 villes, sur les traces de la Grande Guerre et de ses millions de morts. L'occasion aussi de dialoguer avec les Français, des Français qui n'ont pas hésité à l'interpeller, en particulier sur la hausse du prix des carburants. Une rencontre avec le pays réel, souhaitée par Emmanuel Macron, invité exceptionnel de Nikos Aliagas, c'était mardi matin sur Europe 1.
Je suis très heureux, moi, de passer ces 6 jours dans notre beau pays, voilà, au milieu de nos concitoyens. Nous sommes en Meuse tous les deux. J'étais à Strasbourg dimanche soir. Je poursuis cette itinérance. Et le fait de m'endormir chaque soir, en discutant d'ailleurs avec les uns et les autres, et de me réveiller chaque matin en étant dans notre pays, me réjouit.
Bonjour Lionel Gougelot.
Bonjour Fabienne.
Correspondant dans le Nord pour Europe 1, pendant toute la semaine, vous avez précédé Emmanuel Macron dans les différentes étapes de son périple à travers l'Est et le Nord de la France, sur les différents champs de bataille de la guerre 14-18. On verra aussi avec vous que le président qui voulait être confronté aux préoccupations des Français a été exaucé, peut-être même d'ailleurs au-delà de ses espérances. Oui. Mais d'abord Lionel, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce parcours mémoriel qui vous a conduit de Morhange à la colline de Notre-Dame-de-Lorette en passant par Verdun?
Bah, écoutez, j'ai envie de dire, cette atmosphère de gravité, hein, finalement, sur tous ces lieux chargés d'histoire, le silence, le poids de l'histoire, le poids de l'émotion que l'on ressent sur tous ces lieux de mémoire, ces théâtres de combat comme à Verdun qui porte encore les cicatrices de cette guerre avec ces innombrables trous d'obus qui ont littéralement défiguré, bosselé des hectares de terre, ou encore ces villages rasés et qui n'ont jamais été reconstruits. Je pense par exemple à ce petit village de Fleury. Alors il y a bien sûr tous ces monuments, hein, qui commémorent le sacrifice des soldats, et puis ces alignements de tombes presque à l'infini comme à Verdun d'Douaumont, au lieu évidemment terriblement symbolique de ce conflit, mais ce qu'il y a presque de réconfortant, j'ai presque envie de dire de rassurant à Verdun, c'est que c'est aussi devenu le lieu de la réconciliation franco-allemande. Pourquoi ? Peut-être parce que ici, à Verdun, eh bien, Fabienne, on peut pas s'empêcher de penser, vous savez, à cette fameuse photo de François Mitterrand et Helmut Kohl qui se tiennent par la main à l'occasion d'une commémoration du 11 novembre, c'était en 1984. Et donc voilà, on a cette image aussi, et c'est encore une fois plutôt rassurant, de réconciliation entre la France et l'Allemagne.
Cette image de réconciliation entre la France et l'Allemagne, on l'aura sûrement cet après-midi dans la clairière de Rotonde avec Emmanuel Macron et Angela Merkel. Autre témoignage de cette réconciliation, c'est cette visite de l'ossuaire de Douaumont que vous avez faite avec Nikos Aliagas. C'était lundi midi et votre guide, c'était le maire de Douaumont qui est aussi le directeur de l'ossuaire.
Il y a combien de milliers de morts ici?
Alors dans l'ossuaire, au moins 130 000 hommes, au moins. Mais dans la cuve que nous avons vue, au minimum 40 000 hommes. Français et Allemands réunis dans la mort. C'est un symbole fort, puisque dès 1919, Monseigneur Ginisti a réuni ses corps français et allemands. C'est la première réconciliation franco-allemande.
Un mot sur la bataille de Verdun. Il était impossible de survivre.
Mathématiquement, on était mort avant d'arriver. Il y avait plus d'obus que d'hommes. Sur certaines positions, plus de 120 obus à la minute sont tirés. C'était l'enfer sur Terre. C'est inimaginable. Verdun, ce n'est pas une guerre de tranchées. Hein. C'est une guerre où vous avez des trous d'obus. Les hommes se stockent dans ces trous d'obus. L'artillerie pilonne en permanence. C'est 300 jours de pilonnage incessant. Le seul gagnant, c'est la mort. Autour de nous, dans ces 15 000 hectares de zone rouge, nous avons entre 80 et 100 000 hommes que la terre recrache tous les ans.
On n'a pas déterré tout le monde.
Non.
Tout est dit Lionel, hein, quand on entend le maire de Douaumont, ces mots, la terre qui recrache encore des morts, on vient de l'entendre, il y a encore 80 à 100 000 corps dans la terre de Verdun.
Ouais, ça donne vraiment le tournis, hein, des soldats français ou allemands qui resteront peut-être à jamais disparus. Je vous parlais tout à l'heure de sacrifice. Ce sentiment, on l'a bien ressenti également à Morhange, le lieu d'une des premières grandes batailles du mois d'août 1914. Morhange, vous savez, c'est l'image d'Épinal de ces soldats français partis à la guerre, la fleur au fusil. C'était une offensive pour récupérer à l'Allemagne l'Alsace et la Lorraine, enfin l'Alsace et la Moselle très exactement. Et on est convaincu à ce moment-là que ça va se faire en quelques semaines, que la guerre ne va durer que quelques jours, et en fait ça va devenir l'un des plus grands carnages de la guerre. Des soldats français avec leurs capotes bleues et leurs pantalons rouges qui font des cibles idéales pour l'artillerie allemande, des dizaines de milliers de morts en quelques jours, et une évidence à ce moment-là, cette guerre va durer longtemps.
L'autre témoignage de l'hécatombe de cette Première Guerre mondiale, c'est la colline de Notre-Dame-de-Lorette.
Oui, Notre-Dame-de-Lorette à une dizaine de kilomètres de Lens, c'est la plus grande nécropole de France, plus de 40 000 corps de soldats français, la moitié enterrés dans des fosses communes d'ailleurs, parce qu'ils n'ont jamais pu être identifiés. À côté, vous savez, il y a le fameux anneau de la mémoire, hein, qui a été inauguré il y a 4 ans, avec ses 580 000 noms de soldats. Alors là, de toute nationalité confondue, les soldats qui sont tombés sur le territoire du Nord et du Pas-de-Calais durant ce conflit. Mais à Notre-Dame-de-Lorette, il y a les gardes d'honneur. Et les gardes d'honneur, c'est une association qui, depuis 1927, entretient la mémoire des soldats. Et avec leur béret et leur brassard tricolore, eh bien, ils ont été créés au départ pour canaliser les foules qui se pressaient dans le cimetière à la recherche de la tombe d'un proche. Et encore aujourd'hui, ils accueillent des familles.
Des gens qui viennent de très loin, des arrière-petits-enfants qui essayent de retrouver leur aïeul, quoi. Donc ils nous donnent le nom, le prénom, et on a un ordinateur ici qui nous permet d'identifier les tombes où ils sont enterrés. Et on accompagne les personnes qui recherchent un défunt jusqu'à la tombe.
Ça doit être parfois des moments d'émotion assez forts.
Oui, tout à fait, oui. Il n'est pas rare de voir les enfants, quand ils se sont recueillis sur la tombe, de les voir repartir en pleurant, quoi.
Et là, vous faites quoi? Comment on vit ça?
On les laisse un peu déjà s'isoler avec leurs défunts, quoi. On ne reste pas à côté d'eux. S'ils veulent prier, s'ils veulent se recueillir, et voilà, on les laisse un peu tranquilles, puis voilà.
Voilà le témoignage de Paul Leuillet, l'un de ces 4000 gardes d'honneur de Notre-Dame-de-Lorette qui se relaye donc assez régulièrement pour entretenir la mémoire et donc guider les visiteurs de cette nécropole.
Et ce qui est frappant quand on écoute tous ces témoignages, Lionel, c'est qu'on prend vraiment la mesure de ces 10 millions de morts, il faut le rappeler, rien que pour la Première Guerre mondiale, sur l'ensemble effectivement des champs de bataille. Alors Emmanuel Macron l'avait dit, ce périple d'une semaine baptisé itinérance mémorielle par l'Élysée, c'était aussi l'occasion pour lui de dialoguer avec les Français. En fait, ce dialogue a plusieurs fois tourné à la confrontation. On va y revenir dans un instant.
Vous écoutez Tout Terrain avec Fabienne Lemoyle. L'actualité par ceux qui l'ont couverte, à savoir les reporters et correspondants d'Europe 1, toujours sur les traces de la Grande Guerre.
Dans Tout Terrain, nous revenons sur cette séquence mémorielle qui a amené Emmanuel Macron sur ses champs de bataille de la guerre 14-18 dans l'Est et le Nord de la France. Il voulait que ce soit l'occasion de dialoguer avec les Français. Lionel Gougelot, vous êtes toujours avec nous. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a été exaucé. Parce que c'est vrai qu'entre un syndicaliste de Sud qui lui a dit qu'il n'était pas le bienvenu dans l'usine Renault de Maubeuge, à Verdun, ce sont des habitants qui l'ont pris à partie sur la hausse du prix des carburants. Bref, vous-même, vous avez été témoin toute la semaine que les Français avaient à cœur de l'interpeller.
Oui, mais dans ce contexte, vous savez, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que tous les gens avec qui j'ai discuté se demandaient s'ils avaient bien compris la démarche, quoi, finalement. Parce que il y a cet aspect rendre hommage aux combattants de 14-18, et puis en même temps aller à la rencontre du pays. Et on peut se demander si, d'une certaine façon, la démarche n'était pas un peu contradictoire, si ça n'a pas un peu brouillé le message, compte tenu, encore une fois, du contexte social. J'ai senti que, notamment dans le témoignage de Quentin, un jeune demandeur d'emploi de Verdun, certes, il attache de l'importance à ces commémorations, mais quand on discute un petit peu plus profondément avec ce jeune demandeur d'emploi, et bien ce qui lui importe, lui, c'est ses problèmes de recherche d'emploi.
À Verdun, depuis qu'on est tout petit, on nous parle tout le temps de la Première Guerre mondiale, on va visiter les champs de bataille, l'ossuaire, etc. On baigne là-dedans. Après, c'est sûr que avec les circonstances de pas de travail ou alors d'autres choses, de penser à partir, ben on oublie. On a d'autres préoccupations. Comment finir la fin du mois? La priorité, c'est d'arriver à s'en sortir et pouvoir vivre, tout simplement. On attend, on essaye de survivre comme on peut. Parce que c'est vraiment ça, quoi. C'est un petit peu de la survie.
Voilà, de la survie pour ce jeune demandeur d'emploi de Verdun. Une semaine de commémoration, vous l'avez dit, marquée par la polémique sur le prix des carburants. Moi, j'ai presque envie de dire... polluée. Hein. Vous savez, sur les routes de l'Est et du Nord, dans les petites communes de secteur rural notamment, j'ai croisé beaucoup d'automobilistes avec ce fameux gilet jaune.
Et ce gilet jaune qui devrait être arboré normalement par ceux qui doivent manifester le 17 novembre prochain, samedi prochain.
Exactement, signe de protestation contre cette hausse des taxes. Des gens qui expriment un vrai ras-le-bol, comme Nicole par exemple. Nicole, elle est commerçante à Rosgoy-sur-Serre, dans l'Aisne, là où est passé le président Macron cette semaine. Et vous allez l'entendre, elle n'a pas vraiment été convaincue par la justification d'Emmanuel Macron mardi matin sur Europe 1.
C'est dur pour tout le monde, pour tous les artisans, les commerçants. C'est un gros problème. Le gasoil, les charges, tout ça, c'est un gros problème. Mais qu'est-ce que vous voulez faire?
Et quand vous entendez M. Macron dire que c'est pour l'écologie?
Ah non, non, moi je n'y crois pas trop. De toute façon, même les voitures électriques, de toute façon, ils pollueront aussi. Parce qu'ils n'arriveront pas à recycler les batteries. Tout pollue si on veut.
Bien voilà, on entend effectivement le témoignage de Nicole, qui sera peut-être parmi les manifestants le samedi prochain. Ça, ce sera l'autre séquence, bien loin effectivement des champs de bataille de 14-18. Merci beaucoup Lionel Gougelot de nous avoir fait parcourir cette mémoire aussi si importante et qui se poursuit tout ce week-end avec demain évidemment les commémorations du 11 novembre à Paris. Merci Lionel.
Merci Fabienne, à bientôt.
Alors l'autre journaliste d'Europe 1 à voir sillonner les champs de bataille de la Première Guerre mondiale cette semaine, c'est vous Arthur Mbaché. Bonjour Arthur.
Bonjour Fabienne.
Correspondant dans le Grand Est, et avec vous on va faire une rencontre exceptionnelle, un homme qui redonne un nom aux poilus. Alors je ne parle pas de cette prouesse technique qui a permis grâce à un algorithme de donner un visage aux soldats inconnus en superposant 30 000 clichés de soldats de la Grande Guerre. Non, l'homme que vous avez rencontré Arthur, c'est un médecin. Alors racontez-nous comment lui est venue cette vocation de rendre une identité aux poilus.
En fait, Fabienne, on se demande s'il aurait pu faire autre chose. Le champ de bataille de Verdun pour le docteur Bruno Frémont. Le champ de bataille, c'est le terrain de jeu de son enfance, comme tous les gamins du coin d'ailleurs. Un endroit où son père a travaillé, médecin légiste lui-même. Et c'est surtout le lieu où, pendant la Grande Guerre, ont combattu ses deux grands-pères.
Alors il procède comment? Je crois que vous l'avez d'ailleurs rencontré, comme on dit, en situation.
Oui, dans la chambre mortuaire de l'hôpital de Verdun, le légiste, silencieux, concentré, blouse verte, gants en latex, masque sur le visage, penché sur sa table d'autopsie. Le patient est mort il y a un siècle.
Tout ça, ce sont des morceaux de cuir qui ont été très bien conservés dans de la glaise humide. Et il y a des cartouchières de Lebel, la balle de Lebel, hein, qui est la balle du fusil français de la guerre 14-18. Donc vous voyez que c'est un équipement militaire français de la guerre 14-18. Bon, ici, vous avez des ceintures de simples soldats.
Alors imaginez, Fabienne, un tractopelle qui tombe sur des ossements, ce qui arrive absolument tout le temps à Verdun, un marcheur qui découvre dans la forêt, mettons un crâne, le téléphone de Bruno Frémont sonne, c'est les gendarmes ou le parquet au bout du fil, et une fois encore, comme il le fait au moins une fois par mois en urgence, le trajet hôpital champ de bataille.
On n'examine pas uniquement des ossements sur une table d'autopsie, il faut aussi se déplacer sur le terrain, souvent en temps et en heure, même des fois quand il pleut, quand il fait pas, quand le temps n'est pas au rendez-vous, et il faut étudier ce terrain, il faut étudier tout ce qui se trouve autour, car c'est un enseignement très important qu'on ne retrouve pas ensuite, comme par exemple la position des cadavres, ainsi de suite.
Alors c'est aussi, et c'est ça qui est assez extraordinaire dans son parcours, le premier à avoir identifié grâce à l'ADN un poilu français.
Oui, il y a 3 ans, le légiste a eu affaire à 3 corps sur le champ de bataille et une seule plaque d'identité militaire, vous savez, le petit médaillon avec le nom du soldat. Équation a priori compliquée, et bien grâce à Bruno Frémont qui a réussi à convaincre l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie, pour la toute première fois, un poilu a été identifié par ADN.
Les 3 squelettes étaient enchevêtrés et cette plaque d'identité, elle a été retrouvée à 200 mètres de là dans un tas de terre. À cet endroit-là, si on creuse plus loin, on trouve encore un 4e cadavre et puis un 5e et puis d'autres plaques d'identité. Rien ne nous prouvait que cette plaque d'identité pouvait être attachée à un de ces 3 soldats. Toutes les identifications qui ont lieu, finalement, ce sont des présomptions. Hein, on trouve une plaque d'identité près d'un squelette ou pas trop loin et on attribue une identité. Alors que là, on a la preuve formelle, on a la preuve scientifique.
Donc voilà, le docteur Frémont le dit bien, preuve scientifique, ça veut donc dire que ce poilu a un nom désormais.
Oui, sergent Claude Fournier, un soldat de Verdun qui, sans la persévérance du légiste des poilus, serait resté un soldat inconnu. Écoutez l'émotion de son petit-fils, le petit-fils de ce soldat, Robert Allard, sur qui on a fait des prélèvements génétiques, ce qui a permis l'identification.
Je pense à ma mère. Bon, d'une part, elle n'avait pas connu son père, elle était trop petite, elle avait 4 ans quand il est parti. Mais ce qui la chagrinait le plus, c'était de savoir où il avait été tué, puis aussi de ne pas l'avoir retrouvé. Donc c'est à elle que je pense. Bon, c'est un message d'espoir pour toutes les personnes qui ont perdu des proches à la guerre de Verdun, parce que je pense que c'est une belle histoire.
Une belle histoire qui pourrait peut-être se répéter à l'avenir, Arthur, parce qu'on va le rappeler, beaucoup de soldats de Verdun restent encore à identifier. On rappelle ce chiffre, le directeur de l'ossuaire de Douaumont qui disait il y a quelques minutes qu'il y a encore 80 000 à 100 000 corps dans la terre de Verdun. Merci beaucoup Arthur.
Merci Fabienne.
Europe 1.
À suivre, nous partons à Marseille. 8 morts après l'effondrement de 2 immeubles rue d'Aubagne en plein centre-ville. Et la colère, vous allez l'entendre, qui monte chez les habitants.
Jusqu'à 14h, c'est tout terrain avec vous Fabienne Lemoyle et on va revenir maintenant sur une image alarmante.
C'est l'image qui a marqué cette semaine. Lundi, 9h du matin, 2 immeubles s'effondrent rue d'Aubagne en plein centre de Marseille. Sonia habite en face des numéros 63 et 65.
J'ai même pas eu le temps de finir ma pensée que j'ai entendu papapoum, plein de poussière chez moi, comme un tremblement de terre. C'est impressionnant. Quand je descendais le bâtiment, je sais même pas comment j'ai fait pour le descendre, tellement que t'as peur que ça s'effondre.
Bonjour Nathalie Chevance.
Bonjour Fabienne.
Vous êtes la correspondante d'Europe 1 Marseille. Vous êtes arrivée sur place quelques minutes après l'effondrement. On va juste rappeler d'ailleurs Nathalie qu'on est en plein cœur de la ville, à 2 pas à peine de la Canebière. Et vous me l'avez dit, ce que vous découvrez quand vous arrivez, c'est à peine croyable. On l'a entendu d'ailleurs avec Sonia, c'est comme si un tremblement de terre avait touché le quartier.
Ah oui, l'image est saisissante. Des 2 bâtiments, il ne reste plus rien. Tout s'est écroulé comme un château de cartes. L'amas de gravats fait 15 mètres de haut et les 2 immeubles à côté menacent aussi de s'écrouler sur eux-mêmes par effet domino. Très vite d'ailleurs, les marins-pompiers mesurent le danger, obligés par moments de stopper les fouilles pour préserver leur propre vie, le tout sous une pluie battante. Alors nous sommes, vous l'avez dit, dans le quartier populaire de Noailles, juste au-dessus du Vieux-Port, un secteur qui tranche avec la modernité des dernières installations qu'on a vu pousser à Marseille. Ici, les bâtiments sont vieux, plus de 200 ans, mal entretenus, vétustes, voire insalubres. Alors très vite, on apprend d'ailleurs que le numéro 63, propriété de la ville, était muré, condamné après 10 ans de procédure, mais laissé aux 4 vents. Quant au numéro 65, c'était une copropriété privée frappée d'un arrêté de péril en date du 18 octobre dernier. Des travaux de consolidation avaient été effectués, mais d'après Sophie, l'une des rescapées, l'immeuble bougeait, les fissures s'élargissaient. Résultat, la veille de la catastrophe, cette étudiante décide d'aller passer la nuit chez ses parents. Ça lui a sans doute sauvé la vie.
Depuis quelques semaines, les portes ne se fermaient plus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le châssis en métal était poussé par les murs et les portes ne rentraient plus. Nous, on a alerté le syndic, j'ai d'ailleurs des messages, des mails, des appels, etc. Et en fait, rien n'a été fait à ce sujet-là. Et moi, quand je suis rentrée chez moi dimanche soir, ma porte a eu ce même problème. Et quand j'ai vu qu'elle était bloquée, qu'elle pouvait ni s'ouvrir ni se fermer, j'ai vu qu'en fait, ça s'était dégradé vraiment très rapidement. Et du coup, moi, je me suis pas dit que ça allait s'effondrer. Je me suis juste dit, si je reste chez moi, demain, je vais être enfermée, je vais plus pouvoir ouvrir. Et en fait, j'y suis allée chez mes parents et du coup, et le matin, l'immeuble s'est effondré. Les murs bougeaient, enfin on l'a vu, on le disait que les murs bougeaient. Ma voisine était régulièrement enfermée chez elle, je devais donner un coup de pied pour la libérer. Les gens, ils sont pas juste morts, ils ont en plus souffert. Ça a dû être un cauchemar. Donc oui, ils auraient dû nous évacuer, ils auraient dû nous écouter en fait.
On vient d'entendre Sophie, hein, les murs bougeaient, on comprend mieux pourquoi la polémique est arrivée et forcément la psychose qui a gagné les habitants, Nathalie.
Et oui, parce que des chiffres ont refait surface. Ces chiffres, ils datent de 2015, ils sont qualifiés d'affolants par la Fondation Abbé Pierre. 100 000 habitants à Marseille vivent dans des logements indignes, 40 000 logements concernés, 13% du parc des résidences principales. Des proportions vues nulle part ailleurs en France. Et dans le quartier de Noailles, c'est près d'un immeuble sur 2 qui est considéré comme indécent ou dégradé, avec essentiellement un parc privé et très peu de logements sociaux. Alors depuis la catastrophe, la psychose est montée d'un cran. Léa habite rue d'Aubagne, dans un vieil immeuble. Elle n'a pas encore été évacuée. Le syndic ne fait pas les travaux, dit-elle, et la jeune fille a perdu le sommeil.
On a du mal à dormir, on a peur que notre bâtiment s'écroule. On vit un calvaire, on a des fissures au plafond, au mur, le sol au carrelage. C'est une copropriété privée. Ils vous répondent, on ne dépense pas cet argent pour ce bâtiment.
Combien vous payez de loyer par mois ?
450 euros, une seule pièce. Tous les bâtiments sont fissurés, dont le nôtre, on en a marre, on n'a pas envie de mourir dans ça. Ça me stresse. Je ne pensais pas qu'un tel drame allait se passer. On se dit, c'est l'impossible. C'est pas dans des villes comme ça que ça doit se passer. On se croira en Irak, avec tous ces gravats et ces bâtiments qui menacent de s'effondrer encore.
C'est vraiment incroyable ces témoignages, hein, Nathalie. C'est à peine croyable. Donc on a entendu la psychose, la polémique et forcément la colère qui monte. Et un premier rassemblement, je crois que c'était mercredi soir. Forcément, on cherche des responsables et on a entendu des mairies assassins parce que tout le monde attendait la parole de Jean-Claude Gaudin, du maire de la ville.
Et oui, on sent hein, cette exaspération qui monte au fil des jours. Il y a par exemple ce hashtag « balance ton taudis » pour rassembler un maximum de témoignages, répertorier les bâtiments dangereux. Et ça fonctionne. Dans la seule journée de mercredi, la ville a reçu 51 signalements. En une journée, les services municipaux sont intervenus 37 fois et 4 immeubles ont été évacués. Des évacuations qui se multiplient d'ailleurs depuis. Avec des riverains, on l'a bien senti, décidés à ne plus être délaissés pour compte. Parce que ce sentiment d'abandon, ils l'ont exprimé à maintes et maintes reprises. Défaillance totale des pouvoirs publics. Là encore, c'est la Fondation Abbé Pierre qui l'écrit, avec une inertie des services de la mairie dénoncée par les politiques et par les riverains. Alors Jean-Claude Gaudin a finalement pris la parole pour rappeler que 35 millions d'euros avaient été investis depuis 2005 pour l'éradication de l'habitat indigne. Le maire qui a pointé du doigt au passage les marchands de sommeil, la lenteur des procédures et le rôle à jouer et des pouvoirs publics.
Il est clair qu'il y a une colère, je la comprends. Dans ce genre de drame, on s'attaque bien entendu tout naturellement au maire. Nous consacrons des sommes considérables sur l'habitat dans l'ensemble de la ville. Il est clair que la législation en matière de logement insalubre doit être modifiée. Vous vous rendez compte que pour le numéro 63, il nous a fallu 10 ans de procédure pour que les gens qui occupaient ces logements s'en aillent, parce que justement il y avait un danger. 10 ans.
Alors on entend Jean-Claude Gaudin qui, je ne vais pas dire botte en touche, mais un petit peu quand même, Nathalie, parce que quand on écoute les précédents témoignages, on se demande vraiment comment les gens peuvent encore vivre dans ces immeubles, quelles solutions on a proposées à ces habitants.
En tout cas, la procédure risque d'être longue et très compliquée car il y a plus de 200 personnes du secteur de la rue d'Aubagne hein, qui ont dû plier bagage depuis lundi. Et c'est un grand mot, bagage, parce que certains riverains n'ont même pas eu le temps d'emporter leurs affaires vu le danger. On les a aperçus casques vissés sur la tête, encadrés par les pompiers, regagner leur domicile juste pour quelques minutes, le temps de prendre le nécessaire, leurs papiers, et puis de repartir sans aucune certitude de pouvoir un jour retourner à leur domicile. Alors la plupart ont été logés par la mairie, dans des hôtels, le temps de trouver de nouvelles solutions, d'autres appartements. Et sur la suite des événements, eh bien, les riverains sont très partagés. Certains ne veulent plus revenir, mais d'autres restent attachés à ce quartier de Noailles, symbole de la mixité, l'un des plus anciens de la ville et qui accueille aussi de plus en plus d'étudiants qui recherchent de petits loyers.
Merci beaucoup Nathalie.
Merci Fabienne.
Et témoignage de cette colère, Nathalie, qui ne retombe pas. Dans moins de 2 heures, on l'a dit dans le journal, va débuter une marche blanche à l'appel du collectif Noailles en colère, en hommage aux victimes. Je vous rappelle le bilan toujours provisoire de 8 morts, 5 hommes et 3 femmes. Le 8e corps a été retrouvé dans les décombres hier.
Europe 1.
À suivre, comment lutter contre le harcèlement scolaire en faisant parler harcelés et harceleurs. On en parle avec la spécialiste éducation d'Europe 1, Virginie Salmen.
Il est 13h31, on retrouve Fabienne Lemoelle pour la suite de Tout Terrain, l'émission Grand Reportage d'Europe 1. Et à présent, on va s'intéresser à un fléau en milieu scolaire.
1 élève sur 10 victime de harcèlement scolaire. Sombre constat jeudi pour la journée consacrée à la lutte contre ce fléau, avec le lancement d'une grande campagne de sensibilisation à destination des ados pour les mettre en garde contre le sexting. Ces photos dénudées partagées des milliers de fois sur les réseaux sociaux.
En une seconde, c'était fait.
C'est ce que tu voulais d'enfant.
Comment on a pu savoir que... On n'aurait rien pu faire.
Les photos, c'est perso. Les partager, c'est harceler.
Bonjour Virginie Salmen.
Bonjour.
Spécialiste éducation d'Europe 1. On vient d'entendre cette campagne lancée par le ministère à destination des jeunes avec donc ce slogan, hein, les photos, c'est perso, les partager, c'est harceler. Parce que c'est vrai, ça peut être un vrai cauchemar pour les victimes. Ça a été le cas pour Alexia. Vous avez d'ailleurs recueilli son témoignage qu'on a entendu très fort cette semaine sur Europe 1.
Oui, Alexia, elle avait 17 ans au moment des faits. Ça s'est passé un soir de Nouvel An. Elle était chez des copains avec son petit ami qui, à un moment, l'a entraînée dans une chambre.
À un moment de la soirée, nous avons voulu nous isoler. Donc, nous sommes montés à l'étage dans une pièce. J'ai fermé la clé et nous avons fait l'amour. Et puis, à un moment, il y a des personnes qui ont ouvert la porte et qui nous ont pris en photo. Je me suis ruée vers eux pour les faire supprimer cette photo. Quand je me suis réveillée le lendemain matin, j'ai vu cette photo sur Twitter. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, ils avaient eu le temps de tout envoyer avant. J'ai dû retourner à l'école, en fait, après ça, et je me faisais siffler, je me faisais aborder, je me faisais insulter. J'avais l'impression d'être une moins que rien, en fait. J'avais l'impression que c'était moi la coupable, alors qu'en soi, j'étais qu'une victime.
On vient d'entendre le calvaire d'Alexia. Au final, quelles sanctions pour ces harceleurs? Ça remonte à quand, cette histoire?
Alors, aujourd'hui, Alexia, elle a 20 ans, donc ça fait 3 ans qu'elle se débat avec cette histoire. Vous avez entendu que les 6 mois qui ont suivi cette soirée du Nouvel An ont été très douloureux. Ensuite, elle a dû partir à l'autre bout de la France pour couper les ponts avec tous ses amis pour s'en sortir. Parmi les gens qui ont pris les photos, donc celui qui a pris la photo est encore en attente de jugement. Ceux qui ont partagé et qui étaient présents à ce moment-là ont été, eux, condamnés à des peines d'amende parce qu'elle a porté plainte juste après les faits en appelant sa mère au moment où ça se passait.
Alors justement, quels conseils on peut donner pour éviter d'être victime?
Alors, porter plainte, évidemment. Donc pour ça, il faut faire des captures d'écran très vite pour constituer des preuves. Ça, c'est très important. Si la photo circule sur Twitter ou Facebook, par exemple, même si vous n'êtes pas victime, si vous voyez une photo de quelqu'un de dénudé comme ça, vous pouvez la signaler, ce qui fait qu'elle disparaît très très vite, ce qui est beaucoup plus difficile si ce sont des chaînes de SMS ou des chaînes WhatsApp. Et puis, un conseil, si jamais dans un moment d'égarement, vous êtes une jeune fille ou un jeune garçon et vous vous prenez en photo, vous cédez à la tentation, surtout ne prenez pas votre visage en photo.
Alors Virginie, cette histoire de harcèlement s'est réglée, on l'a entendu au tribunal, il y a donc ce jugement qui est en attente, mais en fait l'idée c'est de prendre le mal à la racine dès le lycée, ou enfin en tout cas l'établissement scolaire.
Oui, alors pour ça, il y a en ce moment une méthode qui s'appelle la méthode PICAS, la méthode de la préoccupation partagée, dont beaucoup de membres de l'éducation nationale sont en train d'être formés dans quelques régions, comme par exemple à Reims, où je me suis rendue avant-hier, pour suivre une formation justement. Alors, l'idée, c'est que les professeurs, les CPE, les infirmières, les assistantes sociales font des entretiens, une petite série d'entretiens, à la fois avec le harceleur, le harcelé, et puis les témoins, donc tous les protagonistes de l'histoire. Et au lieu de dire « toi, t'es le harceleur, toi t'es le harcelé », de mettre chacun dans son rôle, on va essayer d'abord d'entendre chacun et puis de les amener à trouver une solution. Alors, ce que font les profs et ce que fait le formateur, c'est qu'ils font un peu comme des comédiens, ils rejouent la scène. Écoutez.
Bien, donc bon, Julie, voilà, hein, je t'avais demandé de venir, on se connaît un petit peu. Dans ta classe, apparemment, il y a un élève qui va pas bien. Je sais pas si t'as entendu parler.
J'en peux plus de cette situation. Ah. Je suis sûre que vous parlez de Quentin. J'en ai trop marre.
Alors, resituez-nous un peu la scène. Qui parle et quel est le rôle justement de l'élève qu'on entend?
Alors voilà, donc là, c'est un prof qui reçoit donc en premier entretien une élève qui est la harceleuse, parce que l'histoire...
C'est... Alors qu'on pourrait penser l'inverse.
On pourrait penser l'inverse, voilà. Quand on entend là, du coup, on ne sait plus qui est qui, et c'est justement souvent ce qui se passe dans ces entretiens. L'élève qui est harceleur, finalement, dit que ce n'est pas aussi simple que ça, dit que lui aussi se fait harceler. Donc là, c'est le cas de Julie, qui est... au départ de l'histoire, censée être la harceleuse. C'est ce que dit Quentin, qui, lui, se dit harcelé. Sa maman dit, moi, si ça continue, je vais pousser la porte de la gendarmerie. Donc, ça devient très, très, très sérieux, cette histoire. Et donc, là, les professeurs mènent une série d'entretiens pour entendre chacun séparément. Écoutez le formateur, il explique assez bien cette méthode.
Il faut cesser de penser que les harceleurs sont des espèces de brutes par nature. Donc, arrêtons de penser que les intimidateurs, c'est les enfants des autres. Les intimidateurs, ce sont nos enfants, ce sont nos élèves, et c'était peut-être nous-mêmes quand on était à l'école. Qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye de rentrer dans la boîte noire de la classe, on essaye de démonter les relations complexes qui s'établissent entre les élèves. Alors là, manifestement, il y a deux élèves qui sont en souffrance. On n'est pas dans une position de juge d'instruction, d'enquêteur, de policier. On est dans une position qui est davantage celle du diplomate, c'est-à-dire qui essaye de maintenir la relation avec les partenaires et sans jamais briser cette alliance. Combien de fois il y a des situations où on perd des élèves? Parce qu'on est tout de suite monté dans les tours, on est tout de suite parti sur les grands reproches, les remontrances et tout ce qu'on veut. L'important, c'est de ne jamais perdre l'alliance avec l'intimidateur, quoi qu'il ait fait.
Jean-Pierre Bellon explique là, c'est une méthode dans laquelle il y a une sorte de protocole, il y a des phrases presque assez précises à prononcer. En général, en moyenne, c'est 2-3 entretiens pour trouver une solution. Et ça fonctionne. Je vous propose d'écouter Delphine Malavski, qui est une responsable climat scolaire dans l'Académie de Reims, qui était très dubitative au départ et qui finalement a été convaincue.
Nous avons donc reçu les élèves qui étaient harceleuses, intimidatrices, puisque c'est le terme qu'on utilise. Et donc, en 3 semaines de temps, la situation de harcèlement s'est complètement éteinte. C'est beaucoup plus efficace parce qu'en fait, on inverse la tendance. Le leader négatif devient le leader positif, propose des solutions et très vite, la situation s'inverse.
Et ça fonctionne dans 8 cas sur 10. C'est-à-dire qu'il y a peut-être, effectivement, chez 2 élèves sur 10 qui sont vraiment arc-boutés ou bien des situations beaucoup trop intenses et trop violentes, il faut des sanctions, voire des sanctions pénales. Mais ça marche quand même dans 8 cas sur 10.
Merci beaucoup Virginie, on le rappelle, cette méthode pour l'instant, elle concerne à peu près un millier de personnes.
Il y a quelques milliers de formateurs dans l'éducation nationale qui ont été formés et puis ça commence à essaimer depuis 4 ans, c'est vraiment en cours dans plusieurs régions de France.
Merci beaucoup Virginie.
Merci.
Europe 1.
À suivre, on reste en milieu scolaire. L'uniforme qui fait son grand retour à Provins dans les écoles primaires depuis la rentrée de la Toussaint, on va voir comment les écoliers l'ont adopté.
Comme chaque samedi de 13h à 14h, vous écoutez Tout Terrain, l'actualité racontée par ceux qui l'ont couverte. Et on va rester en milieu scolaire avec vous, Fabienne Lemoyle.
Début juin, les habitants de Provins ont donc dit oui à 62% au retour de l'uniforme dans les écoles primaires de la ville. Résultat d'une consultation lancée par le maire, Olivier Lavenca, pour la rentrée de la Toussaint.
On va proposer aux familles le formulaire de commande du trousseau, donc du trousseau composé de 10 pièces, de 10 vêtements. Ensuite, la ville va lancer un appel d'offres. Pour choisir un fournisseur, les vêtements seront mis en fabrication et compte tenu des délais, on peut raisonnablement estimer que ça sera mis en application au retour des vacances de la Toussaint.
Bonjour Hélène Terzian.
Bonjour Fabienne.
Le maire de la ville, on vient de l'entendre, avait donc donné rendez-vous après les vacances de la Toussaint pour le port de l'uniforme. Ça y est, c'est donc fait. Et c'est vous qui avez assisté à cette rentrée un peu particulière à Provins cette semaine. Déjà, est-ce que c'était obligatoire pour tous les élèves de porter cet uniforme lundi ?
Absolument pas. C'est une mesure facultative. Les parents avaient le choix de commander l'uniforme ou non. Alors c'est vrai que sur place, je me suis aperçue que même s'il y a eu beaucoup de réunions entre la mairie et les familles, certains l'avaient acheté pensant que c'était obligatoire.
Du coup, il y a à peu près combien de personnes qui ont joué le jeu, de familles, en tout cas qui ont joué le jeu ?
Eh ben, il y a quand même une famille sur deux à Provins qui a acheté le trousseau de 10 pièces bleu marine qui coûte 137 euros.
Alors la question, c'était de savoir comment les principaux intéressés, c'est-à-dire ces élèves du primaire, vivaient l'idée de porter un uniforme. Vous avez assisté aux préparatifs dans deux familles. On va d'abord écouter Célinia, elle a 9 ans et elle est élève en CM1.
C'est rigolo, oui, parce que tout le monde va se regarder. Je trouve pas ça vraiment stylé, c'est classique. J'aime bien la couleur, j'aime bien la matière, tout ça, il n'y a rien qui me dérange.
Bon, Célinia convaincue, elle portait quelle tenue d'ailleurs lundi ?
Alors, Célinia, elle portait un pantalon bleu marine coupe droite, elle aurait pu mettre la jupe short, pour les filles, il y a cette option, un polo brodé de l'écusson de la ville et de la devise liberté, égalité, fraternité, un pull col V bleu clair et un petit blouson aviateur.
Alors on va entendre un autre témoignage, cette fois c'est Johanna, elle a un an de plus, elle a 10 ans et elle est en CM2.
J'aime pas trop la tenue parce que je trouve qu'elle est un petit peu moche. Après j'ai pleuré la première fois parce que ça m'allait pas et tout ça, donc voilà, j'étais pas contente.
T'es dans quel état d'esprit du coup ?
Bah je suis dans l'état d'esprit qu'il y en aura d'autres qui l'auront et d'autres qui l'auront pas. Et ceux qui l'auront pas, bah vont se moquer de ceux qui l'auront.
Mais t'as peur qu'on te dise quoi du coup ?
Qu'on me dise t'as l'uniforme, l'air, moi je l'ai pas et tout ça.
Est-ce que tu penses que tu vas le garder toute l'année ?
À la rentrée, je vais mettre par exemple que le haut, que le bas. Et je vais pas le mettre tout le long de l'année, ça c'est sûr.
Bon, on l'entend, c'est partagé. Il y a Célinia d'un côté qui assume, Johanna qui a peur, elle qu'on se moque d'elle à l'école. D'ailleurs, vous avez assisté à une scène, je crois, assez amusante devant l'école pour la rentrée lundi matin.
Oui, alors j'étais devant l'une des 6 écoles primaires publiques de la ville concernées par cette mesure. Il faut s'imaginer, il est 8h20, c'est la rentrée des classes. Certains sont donc sans uniforme, d'autres oui. C'est le cas d'une petite fille de 9 ans. Elle est dans sa tenue bleu marine, son cartable sur le dos. C'est son papa qui l'accompagne. Et là, devant la grille de l'école, elle est tétanisée.
Elle me dit qu'elle n'a pas envie d'aller à l'école. Elle n'a pas l'uniforme, je ne sais pas pourquoi. Mais tu étais enthousiaste d'en avoir l'uniforme. D'avoir l'uniforme. Et pourquoi tu changes ?
Parce que eux, ils n'ont pas d'uniforme.
Il y en a déjà dans la classe, hein. T'inquiète pas. Bonne journée, ma belle. Allez, travaille bien.
Bon, je ne sais pas comment c'est fini la journée pour cet enfant, mais visiblement, elle n'avait pas l'air très enthousiaste. Qu'est-ce qui a convaincu les parents de faire porter à leurs enfants cet uniforme ?
D'abord, il y a la volonté de mettre tous les élèves sur un pied d'égalité. Ça permet de gommer les inégalités sociales, me disaient certains. Ça permet aussi d'éviter les moqueries parfois cruelles que doivent affronter certains écoliers parce qu'ils n'ont pas les bonnes marques, parce qu'ils portent un pantalon vert pastel plutôt que bleu clair, me confiait une maman. Et puis, il y a aussi un autre argument qui est très pratique, c'est une question de budget. Pour pour de nombreux parents que j'ai rencontrés, c'est beaucoup moins cher en fait de débourser 137 euros pour le trousseau de 10 pièces plutôt que d'acheter des vêtements pour toute l'année dans le commerce. Et puis pour d'autres, il y a cette notion d'appartenance à l'école de la République et c'est justement l'argument avancé par le maire Les Républicains de la ville, Olivier Lavenca.
Je pense qu'il faut revenir à ce qu'est la vocation de l'école publique, c'est un vecteur d'intégration républicaine, un creuset qui permet aux enfants, par-delà ce qui les différencie, de montrer que ce qui les rassemble, c'est-à-dire la République, est beaucoup plus fort. Donc c'est ça l'objectif prioritaire. Après, on vous dit que partout ça a été mis en place, c'est plutôt propice à un bon climat d'apprentissage. Ça donne aussi une belle image de la communauté éducative et puis ça donne aux enfants une belle image d'eux-mêmes.
Voilà pour les arguments du maire. Du coup, c'est pas obligatoire, ça va être vraiment pérennisé ?
C'est encore une expérimentation et ils ont dit qu'ils allaient voir les résultats que ça donnait. Ils espèrent que le fait que certains écoliers portent l'uniforme donne envie à d'autres enfants de le porter et donc aux parents de le commander. On m'a quand même dit on va attendre de voir les résultats de ce projet dans les mois et dans les années à venir.
Merci beaucoup Hélène Terzian et on verra justement si cet uniforme va faire école donc d'abord à Provins et pourquoi pas partout ailleurs en France, même si ce n'est pas une mesure qui vient d'Éducation nationale, mais bien une mesure qui vient de la municipalité. Merci beaucoup Hélène.
Merci à vous.
Europe 1.
À suivre, on part en Guadeloupe. On va retrouver en direct Corinne Boulou qui est arrivée à Pointe-à-Pitre il y a quelques heures pour vous faire vivre sur Europe 1 l'arrivée de la route du Rhum, une course qui a connu beaucoup de casses.
Terrain, suite et fin. Et pour terminer ce tout-terrain, Fabienne Lemoyle, on va prendre la direction de la Guadeloupe.
Et on retrouve en direct Corinne Boulou. Bonjour Corinne.
Bonjour Fabienne.
Alors, vous nous avez fait vivre dimanche dernier le départ de la route du Rhum à Saint-Malo. Vous voilà de l'autre côté de l'Atlantique, à Pointe-à-Pitre depuis quelques heures. Vous allez nous faire vivre dans quelques heures, justement, l'arrivée du vainqueur. Mm-hmm. Pour l'instant, Corinne, c'est François Gabart qui fait toujours la course en tête. Vous l'attendez quand ?
Oui, ce... Solide leader, hein, François Gabart, plus que jamais en tête avec sa, ses trous 100 km du sillage de son maxi trimaran massif. Un Francis Joyon sur Edec, lancé lui aussi à pleine vitesse dans les alliés. François Gabart l'a annoncé lui-même au PC Course tout à l'heure, Fabienne, qu'il pensait être au nord de la Guadeloupe en milieu d'après-midi demain pour une arrivée sur la ligne en début de soirée. Mais ce ne sont pour le moment que des estimations qui vont s'affiner au fil des heures, bien entendu, et ça pourrait être même un peu plus tôt.
Il y aura un record à la clé, Corinne ?
Probablement de quelques heures en effet, mais il ne passera pas sous la barre des 6 jours comme évoqué avant le départ. Le temps de référence établi par Loïc Perron, 4 ans, était 7 jours et 15 heures hein, pour faire la traversée de Saint-Malo vers Pointe-à-Pitre. Tiens justement, une Guadeloupe sous 28 degrés en ce moment avec nuages et fortes averses tropicales depuis plusieurs jours.
Alors Corinne, on va revenir sur cette course qui a quand même été marquée par des conditions météo dantesques hein, dès le départ. On va d'abord écouter Erwan Leroux, il a été joint en pleine tempête, c'était 3 jours après le départ.
C'est l'enfer. Il est temps que ça s'arrête là, parce que c'est assez compliqué. Ouais. Entre les problèmes techniques, cette mer, ce vent, je suis malade, j'arrive pas à me tenir. C'est un enfer.
Voilà. Voilà, c'est un enfer, je suis malade. Tableau d'Erwan Leroux. Du coup, il y a un quart de la flotte qui s'est mis à l'abri dans les ports bretons et espagnols, comme le champion olympique Jean Galfionne, qui assumait clairement d'avoir voulu éviter la casse.
Je très serré, mais de manière très raisonnable et comme je crois une quarantaine de skippers me mettre à l'abri plutôt que casser son main ou de se faire mal. Donc, ouais. Après, ce qui est difficile, c'est d'accepter hein, de se mettre hors course. Moi, j'arrive à me regarder en face en me disant bah, c'est pas grave, c'est la vie.
Voilà, Corinne, vous êtes un habitué de la route du Rhum. Au final, ça fait de la casse, justement, ce gros coup de vent.
Oui, il fallait s'y attendre hein, au regard des trois dépressions qui ont balayé toute la semaine le golfe de Gascogne jusqu'au nord des Açores. La flotte des ultimes, ces multicoques de 32 mètres, capables pour certains de s'élever au-dessus des flots, a payé effectivement un lourd tribut puisque sur les 6 au départ dans cette classe, 3 ont été sérieusement endommagés et surtout l'un d'entre eux a chaviré, celui d'Armel Lecléache, le dernier né hein, de cette génération de bateaux volants. Mais il y a eu aussi dans les 5 autres catégories de voiliers de la casse dans cette route du Rhum avec 3 dématages, une succession d'avaries techniques qui ont poussé de nombreux concurrents à se dérouter pour réparer, voire abandonner, comme Samantha Davis. Sans compter tous ceux, une quarantaine qui, comme Jean Galfionne, vous l'avez entendu, ont choisi de s'abriter dans différents ports bretons, espagnols ou portugais pour ne pas subir les assauts de mer en furie et qui, pour certains, vont reprendre la mer demain en course. Alors que le premier arrivera lui en vainqueur en Guadeloupe, c'est assez étonnant.
Voilà, ça veut dire qu'il y en a qui mettent 7 jours, mais qu'il y en a qui vont mettre beaucoup plus longtemps. Est-ce que quand même, Corinne, pour éviter cette casse, fallait tout simplement pas décaler le départ ?
Alors, bon, cette question, effectivement, a alimenté quelques jours les conversations à Saint-Malo. On parlait d'avancer de 24 heures, éventuellement, ce départ, jusqu'à ce que la direction de course coupe court à l'imagination des uns et des autres, en maintenant le départ dimanche dernier, tout en sachant que les conditions météo allaient se dégrader rapidement. Mais le départ fut assuré sans incident et toute la flotte a tiré correctement de la Manche, ça c'était important. Et il était impossible de décaler plus tard le départ parce qu'il aurait fallu, dans ce cas-là, attendre une semaine en raison du train de dépression qui s'annonçait pour la semaine.
Alors, on va parler de ces fameux bateaux volants. Vous nous en parliez avec Armelle Lecléache. On va écouter François Gabart, justement, qui ne s'attendait pas lui non plus avec son bateau à un début de course aussi compliqué.
Ça a changé un peu l'atmosphère. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Qu'il y ait de la casse, évidemment, sur nos bateaux qui vont très vite, c'est, j'ai presque envie de dire, normal. Et que sur les 6, il y a un bateau qui ait un problème, c'était presque une logique. Mais en tout cas, que ça arrive aussi vite et à ces bateaux-là, c'est aussi le plus surprenant. Donc voilà, c'est un peu dur de parler ce début de course quand il y a eu autant de problèmes. Et en même temps, moi, je suis ravi d'être là avec Francis et de se tirer la bourre avec Francis.
Voilà, François Gabart qu'on attend, hein, l'a dit demain en Guadeloupe. Au final, c'est quoi le bilan de ces bateaux volants ?
Eh bien, les architectes et les navigateurs vont sans aucun doute faire un sacré débriefing de cette route du Rhum parce que se profile en décembre 2019 une course inédite, Fabienne, la Brest-Océan. Mmh. Pour la première fois, les maxi-trimarans doivent s'affronter en solitaire autour du monde. Vous avez le Vendée Globe pour les monocoques, eh bien vous aurez le Brest-Océan pour les maxi-trimarans. Et quand on y regarde de plus près, les deux maxi-trimarans de Gabart et Joyon qui sont en tête sont ceux qui ont bouclé des tours du monde express en record, en mode solo ou équipage. Ces grands voiliers prototypes de haute technologie ont vraiment besoin d'être fiabilisés dans toutes les conditions. Et les bateaux de Sébastien Josse et Armelle Lecléache, par exemple, n'avaient pas encore rencontré de mer déchaînée. La route du Rhum était un galop d'essai pour ces pionniers, ces fricheur de haute vitesse à la voile. Il reste encore beaucoup à faire pour les fiabiliser. Peut-être que Brest-Océan va arriver un petit peu vite.
Et ben voilà, ça sera l'occasion justement d'avoir, comme vous le dites, un beau galop d'essai cette route du Rhum. Et puis on s'excuse un tout petit peu, Corinne, je vous le dis, on n'a pas eu de casse, mais c'est vrai qu'il y a eu quelques petites micro-coupures. On rappelle que vous êtes en direct de Guadeloupe et que vous allez nous faire vivre, évidemment, dans quelques heures, l'arrivée du vainqueur qui, pour l'instant, s'il n'y a pas de casse justement, ce sera François Gabart qui fait la course en tête devant Francis Joyon. Merci Corinne Boulou.
Merci.
Tout terrain, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les reporters et spécialistes d'Europe 1 qui ont participé à l'émission. Lionel Gougelot, Arthur Mbaché, Nathalie Chevance, Virginie Salmen, Hélène Terzian et donc à l'instant en direct Corinne Boulou depuis la Guadeloupe. Un grand merci aussi à Capucine Patouillet pour la coordination, à Cyril Pascal pour la réalisation et Romain Leborgne pour la console. Demain à 13h, vous ouvrirez les carnets du monde avec Sophie Larmoyer.
C'était Tout terrain comme chaque samedi de 13h à 14h sur Europe 1. Fabienne, vous revenez bien sûr ce soir à 18h aux côtés de Philippe Vandel. Dans un instant, on de la raconte. Il reviendra sur cette affaire de la profanation du cimetière juif de Carpentras en 1990. Restez avec nous.